Allez, c'est parti. C'est les enfants à venir. Bonjour et bienvenue dans le podcast du blog Les enfants à venir. Une réflexion personnelle, intime. Des conseils dans le but de se simplifier la vie. La vie sans école, c'est un choix, c'est une philosophie. Quand on a envie de sortir du rang, quand on rêve de mieux pour nous et pour nos proches. Et aujourd'hui, c'est pour une interview un peu spéciale que je suis avec vous, car je reçois Charlotte, experte en parentalité. Bonjour Charlotte.
Bonjour Marion.
Je te remercie beaucoup de participer à cette interview un peu particulière aujourd'hui.
Avec plaisir.
Du coup, pourquoi particulière? Parce que ce n'est plus dans le cadre du défi et tu n'es pas une famille comme les autres, mais une professionnelle. Tu es ma première interview de professionnelle. Du coup, je te laisse te présenter.
Oui, alors, moi c'est Charlotte. Hervé, j'habite dans les Hautes-Alpes, je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans et je suis, pour le volet professionnel, consultante en parentalité. Donc, j'accompagne les parents dans leur chemin, dans leurs problématiques, je les aide à se reconnecter à eux-mêmes, à leurs besoins.
Oui.
Et à poser des limites respectueuses, en tout cas qui collent avec leurs valeurs.
Ok, super.
Voilà.
Et du coup, tu connais Les enfants à venir. C'est un blog sur l'instruction en famille.
Oui.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler des besoins physiologiques? Parce que je sais que c'est un gros volet de ton travail.
Oui. Alors, effectivement, on parle bien des besoins physiologiques dans le cycle Vivre et grandir ensemble de Catherine Dumonteil-Crémer que j'anime. Et donc, les besoins physiologiques... Alors déjà, les besoins physiologiques, c'est quoi? Donc, dedans, on peut mettre plein de choses. Principalement, on met l'alimentation. Donc, le besoin de se nourrir, de boire. Ensuite, il y a le besoin de sommeil. Je pense que nous, pour qu'on fonctionne bien en tant qu'adultes, ben, il faut qu'on ait mangé. Si on a pas manger, on va pas bien fonctionner. Si on n'a pas assez dormi, et on connaît tout ça quand on est parent, le manque de sommeil, bah du coup on fonctionne mal. Ensuite il y a le besoin de contact aussi et de présence affective.
Oui.
Ça aussi, si on n'en a pas. Et encore que chez nous, en tant qu'adultes,
oui, c'est ça.
C'est différent. Mais en
c'est
tout cas, les enfants.
Pour les enfants et pour les adultes, finalement, c'est besoin physiologique, non?
Oui, et encore que le besoin de partage et de contact, en tout cas de présence affective de quelqu'un qui soit bienveillant, enfin qui soit à nos côtés, c'est quand même, même en tant qu'adulte, quelque chose qu'on recherche.
Oui, tout à fait.
Beaucoup. Enfin, je dirais pas tous, parce que on est tous différents, mais voilà, quand même majoritairement. Et ensuite, on a, ben, en fait, finalement, voilà, donc pour les besoins physiologiques, on a aussi l'élimination. C'est sûr que d'essayer de tenir une conversation avec quelqu'un quand on a envie d'aller aux toilettes, ou quand notre enfant est en train d'essayer de négocier, par exemple, et qu'on a envie d'aller aux toilettes, ça va être difficile pour nous... À ce moment-là aussi, ça fait partie aussi des besoins physiologiques. Alors, je le mets à notre échelle d'adulte, parce que ça nous permet de nous visualiser, nous aussi, dans ces situations.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et puis, du coup, ce sont des besoins prioritaires.
Oui.
Sur certains autres. Les besoins physiologiques, c'est ça, c'est le fait qu'ils soient prioritaires par rapport à d'autres.
Oui, et puis c'est surtout ce qu'on a tous, et qui sont indispensables pour bien fonctionner.
D'accord.
Voilà. Il faut imaginer que si on a un de ces besoins qui n'est pas rempli comme il faut, on dysfonctionne en fait.
Oui.
Voilà. Même nous en tant qu'adultes avec notre enfant.
Bien sûr. Et voilà. Du coup, par exemple, le besoin de sécurité. Ce n'est pas un besoin physiologique, puisque si on prend par exemple le fait de d'avoir besoin de manger, on est capable de se mettre en danger pour répondre à notre besoin de manger.
Alors en fait, sécurité, ça peut être large. Oui. Si on parle de sécurité affective, c'est important, en fait. Ça, c'est quand même un besoin important. Tu vois, la sécurité affective dans le développement de l'enfant. Et c'est en répondant à ces besoins physiologiques de base qu'on leur permet de remplir ce besoin de sécurité.
D'accord. Okay.
Voilà. C'est pas indispensable. On voit bien que les enfants vivent bien avec la guerre et ils sont pas du tout en sécurité. Enfin, vivent bien, non, c'est pas ça que je veux dire.
Arrive à vivre.
Arrive à vivre, voilà. Alors que manquer de sommeil, enfin, ne pas pouvoir dormir, ne pas pouvoir manger ou boire, ça par contre, ça met en péril notre vie.
D'accord, ouais. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit parallèle ou nous expliquer en quoi l'école ne répondrait pas tout le temps à ses besoins ?
Et ben c'est facile de s'imaginer d'imaginer qu'on est dans un travail, qu'on travaille dans un bureau et que entre 9h et midi on a à 10h30 c'est le seul moment où on a le droit d'aller aux toilettes, de manger un bout, de boire quelque chose. Bon, ben faut imaginer que ça soit comme ça notre travail. Et puis, ben, si on a envie d'aller aux toilettes à 9h30, ben, c'est ballot, il faut attendre 10h30. Et si à 10h30, ben, on y est allé et que finalement on a encore envie à 11h et qu'on ne peut pas y aller. Alors, on ne peut pas y aller, on ne peut pas aller boire, on ne peut pas aller éliminer, on ne peut pas aller manger.
En même temps, c'est positif, on ne peut pas aller boire, on n'a pas besoin d'aller faire pipi.
Ouais. Ouais. Enfin, c'est quand même, je trouve, super. Et du coup, si on a besoin de boire... c'est très très enfin je sais pas si toi ça t'arrive d'avoir cette sensation là où tu as très soif. C'est difficile de se concentrer sur autre chose que sur punaise mais j'ai trop soif en fait quoi, et de se concentrer dans un travail, dans un apprentissage, et c'est ce qu'on demande aux enfants finalement. Ils rentrent à 9h, c'est difficile de gérer 30 enfants qui ont envie d'aller boire à des heures différentes. C'est pas évident de gérer dans des écoles maternelles des enfants qui sont pas encore en capacité de gérer, une fois qu'ils ont éliminé, ils ont besoin pour leur hygiène, voilà, combien d'adultes pour s'occuper d'eux. Donc c'est pas évident à l'école, effectivement, de pouvoir permettre aux enfants de remplir leurs besoins.
Oui.
Et effectivement, dans des écoles, on les empêche d'avoir accès à l'eau, de boire, pour ne pas qu'ils aillent faire pipi, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc,
Alors pour pas qu'ils aillent se promener dans les couloirs, ou voilà.
Oui, qu'ils chahutent, qu'ils fassent du bruit, qu'ils dérangent d'autres classes. Il y a plein d'autres raisons, en tout cas, c'est parce que les enfants sont en communauté, et qu'il y a que peu de personnes pour répondre à leurs besoins, qu'on peut pas répondre à leurs besoins tout le temps.
Oui.
Voilà. On pourrait pas permettre à un enfant de manger quand il voudrait, dans la classe, par exemple. Bon, et quoique, tout se discute et tout dépend de l'âge.
Oui.
En fait.
Puis tout dépend des enfants.
Et tout dépend des enfants.
Parce que comme on dit, le sommeil, par exemple. Oui, pour les enfants qui se lèvent, du coup, déjà tôt, naturellement, du coup, eux ne manquent pas de sommeil en allant à l'école. Donc, suivant les enfants, après, les miens, je sais qu'ils se lèvent très tard. Donc, eux, forcément, ils sont en manque de sommeil pour aller à l'école.
Ah oui, tout à fait. Moi, je vois que dans les ateliers, j'ai des parents qui disent que leurs enfants se lèvent super tôt. Et donc, c'est pas du tout, en termes de besoin de sommeil, ça pose aucun souci. De toute façon, ils sont debout. Et d'autres parents qui disent, effectivement, que leurs enfants, c'est pas leur rythme et qu'ils se lèvent plus tard. Oui, effectivement.
Bon, après, c'est vrai aussi qu'il y a un rythme effréné à l'école. On leur demande des tonnes de choses. Et même s'ils dorment assez la nuit, ils arrivent au moment des périodes scolaires, des vacances scolaires, pardon, où ils sont complètement épuisés, quoi.
Ouais. Alors il y a surtout la passerelle qui est intéressante à faire avec les besoins et l'école. C'est surtout que quand les besoins ils sont pas comblés, ça met le corps dans une situation de stress.
Oui.
Et ce stress là, il ne va pas du tout avec l'apprentissage. C'est-à-dire que pour apprendre, on a besoin de sécréter une hormone, l'hormone du bien-être. Ça nous permet de fixer ce qu'on a appris et que ça soit plus facile. On apprend quand les enfants dans la cour de récré, c'est très facile pour un enfant d'apprendre une chanson, par exemple. Du coup, un bon exemple, moi je me souviens à l'école, on apprenait à faire des enchaînements de nœuds avec nos élastiques, là, avec quatre doigts, et on apprenait aussi les trois petits chats, la chanson, on la connaissait par cœur.
Oui.
Parce qu'on apprenait ça dans un climat de détente, et qu'il n'y avait pas de pression, et qu'on n'était pas stressé, que c'était la récré, et qu'au contraire, on était vraiment... Et les besoins physiologiques, ce que ça fait, c'est que quand ils sont comblés, ça nous met dans une bonne posture, en tout cas, pour apprendre. Par contre, quand ils sont pas comblés, au contraire, ça nous met vraiment dans une position qui est hyper difficile pour apprendre, et c'est ce que vivent les enfants en fait tous les jours à l'école, c'est que leurs besoins ne sont pas comblés, et que vu que leurs besoins ne sont pas comblés, ils sont dans une situation de stress, et que du coup, ils ne peuvent pas apprendre. Et c'est là où en fait l'école, elle est vraiment pas adaptée à l'heure d'aujourd'hui pour les enfants, c'est qu'elle prend pas en compte, justement, elle fait pas ce lien entre les besoins de l'enfant et les apprentissages, la manière dont les enfants apprennent, ce dont ils ont besoin pour apprendre comme il faut. D'accord. Parce qu'à la limite que leurs besoins ne soient pas remplis, ben nous parfois au travail on peut pas toujours aller aux toilettes. Par contre, on nous demande pas d'apprendre quelque chose. Et quand on doit se concentrer, ben on préfère sortir du bureau, aller aux toilettes et revenir. Voilà, pleinement sur notre travail. Nos enfants, ils n'ont pas cette capacité-là, en fait. Quand on se met à leur place, on se dit, mais punaise, en fait, ça doit être super dur. Oui. On vous demande de vous concentrer, mais...
C'est ça. Et puis là, on parle que des besoins, mais bon, après...
Ouais. Que des besoins physiologiques de base.
C'est ça.
Parce qu'après, effectivement...
T'as les situations de stress, quand on les évalue, ou la comparaison avec les autres, ou les émotions qui sont non agréables.
Oui.
Tu vois, comme, je sais pas, moi... l'humiliation avec les copains ou avec l'adulte, ça peut arriver aussi.
Je sais pas, c'est des besoins qui sont... C'est pas des besoins physiologiques, mais le besoin d'estime de soi.
C'est ça.
Et du coup, en fait, tous les besoins génèrent du stress s'ils ne sont pas comblés.
Voilà.
Voilà, surtout les besoins physiologiques. Mais comme nous, en fait, quoi. Moi, si j'ai besoin de partager et que je suis toute seule et que je me sens seule toute la journée avec mon enfant et que j'ai besoin de partager avec d'autres adultes, au bout d'un moment, ça va me stresser. Mon réservoir, il va se vider, en fait. Et mes ressources, elles vont se vider. Alors, ça va pas être instantané, du coup.
Oui.
Parce que c'est pas un besoin de base. Par contre, ça va petit à petit, ça va me vider. Et mes automatismes, moi, en tout cas, en tant que parent, vont reprendre le pas. Alors, pour rester dans les besoins... Après, voilà, quand leurs besoins, eux, ils sont pas comblés, ça crée de la frustration, quoi, aussi.
C'est ça.
Voilà.
Et du coup, est-ce que tu penses que le fait d'être en instruction en famille pourrait résoudre tous ces problèmes ?
Alors, pas forcément. Parce que on peut être en unschooling et quand notre enfant nous dit qu'il a faim et qu'il est 11h, on peut très bien lui répondre... Non, t'attends midi, c'est pas l'heure de manger, t'avais qu'à manger au petit déjeuner. Et là, on remplit pas non plus ses besoins physiologiques.
Okay.
Donc, il y a... Je pense que c'est nécessaire de prendre en compte les besoins des enfants et de se poser la question sur comment nous on le vivrait. Voilà, moi quand à 4h ou à 2h30 après manger, d'un coup j'ai super faim parce qu'en fait, j'avais atteint mon sentiment de satiété, mais quand même j'ai toujours un petit creux. Mon corps me fait signe que j'ai besoin d'autre chose et que je remange un bout. Ben, si j'interdis ça à mon enfant, voilà, est-ce que je réponds à ses besoins ? Ça va créer de la frustration. Après, ça crée des émotions, du coup. On peut répondre ou aux besoins ou accepter l'émotion.
D'accord. Voilà. Du coup, c'est ça, l'instruction en famille. Ça crée un cadre propice à l'écoute potentielle des besoins des enfants.
Oui.
Plus que les collectivités.
Oui.
Où c'est vraiment difficile de mettre en place et on peut pas difficilement dire, cet enfant-là peut venir à telle heure ou quoi. Donc, l'instruction en famille permet ça. Mais ce n'est pas forcément idéal non plus pour toutes les familles. Enfin, c'est pas une obligation d'être dans l'écoute des enfants. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, pour, aux familles qui se trouveraient un peu démunies et qui voudraient donner un cadre vraiment optimum pour favoriser les apprentissages de leurs enfants.
Du coup, je pense que c'est difficile en 2 minutes de dire ce que les parents devraient mettre en place pour faciliter l'apprentissage optimum de leurs enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Les besoins physiologiques, répondre aux besoins de physiologiques en tout cas, et réfléchir à ça en tout cas en tant que parent, c'est important. Je dis pas qu'il faut laisser manger vos enfants à n'importe quelle heure si pour vous c'est trop difficile. C'est pas ça que je dis. Mais voilà, il faut le savoir que quand leurs besoins physiologiques de base sont bien comblés, quand nos enfants ils ont bien dormi, quand nos enfants ont mangé, quand ils avaient faim, quand ils ont bu, quand ils sont allés aux toilettes, quand ils en avaient envie, ils fonctionnent bien. Ils sont joyeux, ils sont coopératifs, ils sont aimants, et c'est des bonnes situations, des bonnes conditions pour apprendre. Voilà, alors que si nos enfants ils sont dans une situation de stress quelconque, ça va pas les aider. Donc, essayez de voir quelles sont les sources de stress qui peuvent être potentielles déjà pour les enfants. Et après, il y a des tonnes, plein de choses à faire, quoi. Enfin, je vois dans mes ateliers, c'est un processus qui est long. Oui. On travaille sur l'écoute active, on travaille sur les besoins physiologiques, mais aussi comment permettre à un enfant de relâcher la pression. Parce que ça, on en a pas parlé. Et à l'école aussi, quand les enfants sont très tendus, il y a moyen aussi de leur permettre de se détendre à travers le jeu dans des structures comme l'école, mais aussi à la maison.
Ouais. Du coup, tu conseillerais aux familles de suivre ton cycle Vivre et Grandir en prérequis.
Mais oui, et on est 70 en France à faire partie, en France, en Belgique, en Espagne et en Italie, à faire partie de ce réseau parentalité créative. On est des consultantes du coup qui continueront à nous former. Moi je suis uniquement consultante, mais j'ai des collègues qui sont consultantes et formatrices, et donc ça serait plutôt pour les enseignants qui nous écoutent
aussi,
qui nous écoutent aussi, parce qu'il y a possibilité voilà, de répondre aux besoins dans les écoles des enfants, en tout cas plus largement que dans la façon traditionnelle qu'on a aujourd'hui de gérer les écoles. Et j'ai des collègues qui sont donc formatrices et qui dispensent cette formation-là, en fait, dans les écoles.
Ok, super. Est-ce que je peux me permettre, du coup, de te poser une question plus personnelle ? Est-ce que tu as envisagé ton métier en te disant comme ça, ça sera compatible avec votre future vie de famille idéale ? Ou au contraire, est-ce que c'est le métier qui t'a appelé et que du coup tu vas coller ta vie de famille idéale?
Ouais, plutôt la deuxième option. Ouais, parce que quand j'ai mis les pieds dans la formation pour être consultante en parentalité, je savais pas du tout ce qui allait m'attendre et je savais pas du tout que je serais une maman comme ça avec ces idées, enfin, comment dire, qui choisirait l'unschooling. Pas que j'en avais pas connaissance, mais j'avais jamais réfléchi à la question.
D'accord, parce que du coup, c'est ça, vous vous dirigez plus vers l'unschooling avec votre fils.
Oui, oui, oui. À l'heure d'aujourd'hui, autant que faire se peut, on va essayer de garder, comme tes interviews en parlaient à chaque fois, l'organisation d'une famille qui permette de rester là-dedans, voilà. Donc, organisation temporelle, financière, parce que moi, j'ai mon boulot de consultante, Quentin est à son compte aussi. Voilà, il faut arriver à tout concilier, et effectivement, je trouve que c'est optimum. Voilà, tant qu'on a du temps à lui consacrer aussi pour répondre à ses questions.
Et, d'accord. Est-ce que tu vois ça comme... parce que du coup, l'instruction est obligatoire bientôt à 3 ans. Est-ce que tu vois ça du coup comme... un changement aux 3 ans de l'enfant, on commence une nouvelle vie, ou plutôt une continuité par rapport à ce que vous avez toujours vécu maintenant, jusqu'à maintenant?
Ben moi je pense qu'on est déjà en unschooling, d'ailleurs on se connaît bien pour ça, toutes les deux. Je pense qu'on est déjà en unschooling, mais je pense pas que l'école soit non plus complètement mauvaise et que tout ce qui y est à mettre à la poubelle. Je pense que c'est chouette si on vient à y intégrer de nouveaux volets, en fait. Oui. Voilà, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, ça répond pas aux besoins des enfants, juste aux besoins de base, quoi. Voilà, après, on parle pas de l'apprentissage de ceux qu'ils ont envie, etc., etc. Juste déjà les besoins de base et les mettre dans des conditions d'apprentissage optimum, déjà, ça y répond pas du tout, quoi.
D'accord.
Voilà. Ouais. Ça me gêne, en fait. Donc, du coup, nous, on est vraiment partis sur
sur
pour
ça.
Le moment, sur de l'unschooling, ouais.
Ouais, ok.
Ouais, ouais.
Et du coup, pour continuer l'aventure, est-ce qu'il y aurait des outils qui te manqueraient ?
Des outils qui me manqueraient, oui. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'y travaille à ces outils qui me manquent. C'est développer encore plus ma créativité.
Ok.
Parce que je trouve ça fantastique d'entendre dans tes interviews des voyages où ils font des maquettes à l'échelle. Alors qu'aujourd'hui je suis incapable de faire une maquette hein, et que voilà au niveau créativité bon mais parfois j'ai l'impression de manquer de ressources niveau créativité donc c'est ça en fait que j'y travaille et je pense que je vais me faire un petit complément de formation là-dessus voilà
super
ouais je pense que nous aussi en fait on apprend à tout âge moi j'ai retrouvé le goût d'apprendre longtemps après avoir quitté l'école. Ça m'a vraiment...
Voilà. Ah, mais tout à fait. Et puis, justement, là, on parle de parentalité. On apprend aussi à être parent. Et ça, on ne peut pas l'apprendre tant qu'on n'a pas d'enfant. Donc, heureusement qu'on apprend à tout âge. Ouais. Parce qu'on peut énormément évoluer dans nos pratiques de parents également.
Oui.
Voilà. Ouais. Et je sais que moi, personnellement, ta formation en a fait grandement partie. J'avais déjà eu un petit parcours avant voilà, qui m'a amenée vers ça. Et j'ai envie de...
Oui, oui, oui.
Non, mais c'est sûr. Et j'ai envie de continuer là-dedans aussi. Voilà. Donc, effectivement, oui. Heureusement qu'on apprend.
Et qu'on apprend encore quand on est adulte, quoi.
C'est voilà. Ça. C'est ça.
Ouais. Parce que le plaisir d'apprendre, c'est naturel. Et presque, c'est...
Vital.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que ce serait pas un besoin physiologique ?
Eh ben, c'est possible. Oui. Effectivement, l'enfant, il apprend dès sa naissance, en fait.
C'est un peu la façon dont a l'être humain de s'adapter au mieux à dans la société dans laquelle il naît.
Tout à fait, parce que c'est pour ça qu'on est d'ailleurs les seuls à naître, les seuls mammifères qui naissent et qui ne savent pas marcher rapidement, qui ne savent pas se déplacer rapidement, en fait. C'est parce qu'on a besoin d'abord d'apprendre dans la société dans laquelle on vit comment ça fonctionne, qu'on naisse en France, qu'on naisse en Chine, qu'on naisse en Afrique, qu'on naisse... dans les pays froids.
C'est ça.
Voilà,
ça un chat en France fait le même bruit qu'un chat en Chine, alors que c'est pas le, c'est pas le même principe pour les
enfants. Ils ont pas la même vie.
C'est ça.
Ouais.
C'est une question de survie, finalement.
Voilà, comme ça, effectivement, j'avais lu ça quelque part et j'avais trouvé ça très parlant. On est les seuls mammifères à pas être pris quand on sort, en fait.
Oui.
À pas être fini. Voilà.
Moi, je sais que j'avais... Bon, du coup, j'étais partie sur cette théorie-là qui m'avait pas mal plu aussi. Et puis, j'ai lu un autre truc aussi en fonction de la taille parce qu'on est les seuls mammifères aussi qui avons le cerveau le plus développé et qui continuent de se développer aussi après notre naissance pour pouvoir fonctionner de façon optimum quand on est adulte parce que nous sommes des êtres pensants continuellement. Et du coup, en train d'apprendre continuellement. Ou ce serait aussi pour pouvoir passer dans le bassin de la femme à l'accouchement, qu'on n'était pas fini.
Ouais.
Parce que sinon, il faudrait qu'on naisse 9 mois plus tard pour pouvoir après parler rapidement, marcher rapidement et tous ces trucs-là. Donc, c'est aussi pour permettre de pouvoir sortir du ventre.
T'imagines avoir gardé tes enfants 9 mois de plus ?
Non.
Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus.
Voilà.
Ouais.
Mais voilà, c'est deux théories qui me parlent de toute façon.
Ouais.
L'une dit qu'on apprend tout le temps et l'autre...
Et moi, la première, en tant que consultante en parentalité, j'apprends aussi, en fait, tout le temps. Les outils que j'ai aujourd'hui pour gérer les besoins physiologiques ne sont pas ceux que j'avais il y a 10 ans, ni même il y a 8 ans, quand mon fils est né, dont je me suis beaucoup occupée. Et qui... C'est chouette d'avoir les outils avant d'être parent, par contre. Ça facilite grandement la tâche. Je conseille à tous les parents, quand même, s'ils ont la possibilité de suivre un cycle.
Oui.
Oui, parce que ça facilite vraiment, même ne serait-ce que la vie de couple, quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et la remise en question personnelle.
Oui, c'est
aussi.
Ça. Ouais.
Le fait d'apprendre à mieux se connaître.
Oui, pour mieux comprendre nos enfants, en fait, se reconnecter à nous pour être plus connecté à l'autre, être empathique et...
Oui.
Et comprendre, en fait, pouvoir se mettre à la place d'eux, quoi.
Oui. Et puis savoir aussi qu'est-ce qui génère nos colères, parce qu'on sait très bien que... Enfin, je parle des colères parce que c'est... le comportement en général qu'on apprécie moins chez nous. Voilà, et c'est nos enfants qui sont vraiment super forts pour appuyer sur les bons boutons. Et si on se reconnecte à nous, nos sensations, au petit enfant qu'on a été, effectivement, on se comprend plus et du coup on est moins emprunt à la colère.
On met plus de la même manière. Pardon, je t'ai coupé.
Non, pas
du coup, c'est on met plus de conscience et on met moins d'automatisme. Et ça a plus de sens pour nous.
Oui.
Voilà. Ça n'a pas de sens pour nous que de refaire nos parents quand ils étaient énervés, alors que c'est une situation qui nous sortait par les yeux quand on était enfant et encore aujourd'hui adulte. Et quand on voit nos parents dans nous, ça nous agace, ça n'a pas de sens.
Oui.
En fait, c'est pas notre parentalité, elle n'est pas là en conscience quand on fait ça, quand on se voit comme ça. Elle est là par automatisme. Mmh. Voilà. Et parce ce qu'on a appris de ce qu'on a vu, quoi.
Oui.
Donc on est toujours dans l'apprentissage.
Oui.
Ouais. Ça a toujours lié avec notre sujet du jour.
C'est voilà. Ça. Merci beaucoup, Charlotte.
Avec plaisir. Merci, Marion. À bientôt pour une prochaine interview, ouais. Avec
oui,
plaisir.
Carrément. Et voilà, j'espère que cette interview vous aura été utile et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime à la fin de cet article. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires les choses dont vous auriez besoin pour continuer plus sereinement l'instruction en famille. À très vite !